Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le mardi 12 octobre 2021. Il fait un peu gris dans le Beaujolais. En tout cas, les nuages se font de plus en plus nombreux. Les températures, quant à elles, ne montent pas au-dessus de 15 degrés cet après-midi. Quoi de beau, quoi de neuf dans cette émission? Eh ben, on a rendez-vous comme chaque mardi avec notre coach très intéressé par les médias en ce moment et ce qui se passe dans nos têtes quand on les écoute ou qu'on les regarde. Et puis on retrouvera Bertrand Lamure, notre libraire en fin d'émission, très intéressé par les livres et ce qui se passe dans nos têtes quand on les lit. Avant ça, on va parler de culture en Haute-Vallée d'Azergues. Notre invitée du jour, c'est Nadine Pasquier, présidente de HVA Culture, centre culturel associatif itinérant, dont le territoire s'étend sur 8 communes et qui organise chaque année en milieu rural une saison culturelle, des activités pour petits et grands, et c'est ce qui nous attend ce week-end à Grand-Ry, avec une journée autour du vent, jouer avec le vent, au programme cerf-volant, concert et acrobatie. On va donc parler de vent, alors non pas que ce qu'on va se raconter soit du vent, ça on le laisse à certains hommes et femmes politiques. Alors comme ça, comment ça fonctionne HVA Culture, qu'est-ce qu'ils font de beau, et ça veut dire quoi jouer avec le vent, c'est ce qu'on va se dire dans quelques minutes avec Nadine Pasquier. Avant ça, on commence l'émission en musique. On écoute Louise Attac, bien sûr. Je t'emmène au vent. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel.
Louise Attaque avec Je t'emmène au vent, un morceau qui a 24 ans cette année, ça nous rajeunit pas.
Ensemble sur Calade.
Allez, il est l'heure d'accueillir notre invité du jour, c'est Nadine Pasquier, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes présidente de l'association HVA Culture.
Oui.
Et on vous avait reçu il y a quelques semaines pour nous parler d'une actualité en Haute-Vallée d'Azergues, que c'était le retour du musée de Germaine. Ça s'est bien passé ?
Ouais, c'était super.
Bon, tant mieux.
Il y a eu pas mal de monde, le cœur solidaire a bien fonctionné, c'était super. Ouais.
Bon, HVA Culture, alors qu'est-ce que c'est ? On a eu l'occasion d'en dire quelques mots, mais on va pouvoir en parler un peu plus.
Alors, HVA Culture, c'est une association qui existe depuis les années 2000 environ, qui était en fait la commission culturelle de l'ancienne communauté de communes de la Haute-Vallée d'Azergues. Et puis qui s'est transformé en association et s'est appelé HVA Culture. Ensuite, il y a eu avec la CCHVA et d'autres communautés de communes la création de l'accord.
Ouais. L'accord, c'est communauté ouest-rhodanienne.
C'est ça. Okay. Ouais. Et donc suite à ça, HVA Culture est restée telle qu'elle était et s'occupe de 8 communes, les anciennes 8 communes de l'ancienne communauté de communes.
D'accord, très bien. Ouais, voilà. Ça fait beaucoup de communautés de communes.
Ouais, c'est ça.
Donc un centre culturel et je crois que c'est précisé itinérance, c'est-à-dire que vous allez de village en village proposer différentes activités.
Voilà, on est censé arriver à faire au moins un événement dans chaque commune. Donc il y a 8 communes. Il y a, je voulais les connaître.
On peut les citer les Champs Bostalières, Chénelette, Clavézol, Grand-Ry, Lamure-sur-Azergues, Poules-les-Écharmeaux, Saint-Bonnet-le-Troncy et Saint-Nizier-d'Azergues.
Voilà.
Ça fait un bon territoire quand même.
Voilà, c'est très vaste et pas très peuplé, on va dire. Enfin, ouais. il y a environ à peu près 6 000 habitants, quelque chose comme
D'accord.
ça. 5 6 000, j'espère que je ne me trompe pas, mais enfin, ouais. dans ces eaux-là. Quoi. Donc on essaye de faire des interventions et de proposer des spectacles dans toutes ces communes.
Et comment ça fonctionne du coup en association ? C'est du bénévolat uniquement pour faire fonctionner HVA Culture ?
Oui, donc on est resté subventionné par les communes. Mmh. Et ensuite, c'est que du bénévolat. Ouais. On
D'accord.
est tous bénévoles au sein de l'association. Donc moi, j'ai repris la présidence juste avant le Covid.
C'est bonne année pour commencer.
Voilà. Donc je me suis bien formée.
Ouais, j'imagine. Là, du coup, 2021, ça a été un redémarrage un petit peu pour l'association après une année blanche, j'imagine.
C'est ça, ouais. Alors un peu compliqué parce qu'il faut relancer la mécanique et réhabituer les gens à venir
ouais.
aux spectacles, aux événements, aux manifestations. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais on espère toujours
que
du monde.
Revienne,
que le public revienne, ouais, reprenne des bonnes habitudes.
Mmh. Et comment, parce que c'est associatif, il y a une commission programmation qui organise, qui sélectionne les événements que vous organisez, vous êtes sollicité peut-être par des compagnies pour organiser certaines choses, comment ça fonctionne au niveau de la, parce qu'il y a une programmation culturelle annuelle chaque année avec plusieurs événements programmés.
Oui, donc en fait on est un bureau et puis on propose des spectacles. Et après, on décide, à l'unanimité, mais presque. Et puis, suivant des thématiques aussi. Voilà, là, c'était, cette année, c'était l'eau, le feu, l'air, enfin voilà,
les éléments. D'accord.
Donc, on a tourné autour de tout ça pour créer la programmation.
D'accord. Et donc, ce week-end, ça va être le vent. On commence
voilà,
par là, c'est
ce
ça.
Voilà, ce week-end, c'est le vent.
Très bien. Est-ce que, comme vous êtes associatif, qu'il y a des bénévoles, est-ce qu'on peut rejoindre l'association et venir filer un coup de main si on est intéressé par une programmation culturelle, participer à cette activité ? Si on a des auditeurs dans la Haute-Vallée d'Azergues qui veulent vous donner un coup de main, c'est possible ?
Avec grand plaisir.
J'imagine.
On est toujours en demande. Alors, les bénévoles, c'est aussi, ça peut être aussi ponctuel. C'est pas non plus de vouloir. Enfin, Si vous voulez venir constamment, il n'y a pas de problème.
S'investir,
voilà, toute la saison, il n'y a pas de souci, mais ça peut aussi être ponctuellement.
Sur un événement, sur
voilà,
un spectacle.
Voilà, quelque chose qui vous plaît, ou si vous avez du temps, ou bon. Il n'y a pas de souci, on vous intégrera, on vous trouvera toujours quelque chose à faire.
Très bien. Je crois qu'il y a, cette programmation, une saison culturelle annuelle qui commence de septembre et qui va jusqu'au printemps à peu près. Il y a aussi des événements récurrents, une programmation, enfin, quelque chose qui dure toute l'année.
Oui, alors, HVA Culture, on s'occupe de spectacles. On fait aussi de la médiation culturelle dans les écoles, ouais, par rapport aux spectacles qu'on propose, si c'est des spectacles jeunes publics. Donc, ouais, les artistes vont aller dans les écoles. Et puis, on programme de septembre à mars, parce qu'après mars, il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Donc, on reste plutôt sur cette période-là. Et on organise tous les derniers vendredis de chaque mois des séances de cinéma.
Ouais.
Donc, qui se passent à Chamboilière, à la salle de Chamboilière, parce que c'est la seule salle où il peut y avoir du cinéma,
ouais,
et qui est bien équipée, et que la mairie a la gentillesse aussi de laisser la salle. Donc, c'est tous les derniers vendredis de chaque mois, avec à chaque période de vacances scolaires, une séance jeune public à 17h30.
Mmh.
Voilà.
À amener des événements culturels, des spectacles, du spectacle vivant, mais aussi juste du cinéma en milieu rural comme ça, j'imagine que c'est l'objectif principal de l'association. Si on veut aller dans une salle de spectacle ou au cinéma quand on habite dans ce territoire-là, j'imagine que c'est facilement 20 minutes de route.
Ah bah oui, c'est même plutôt 30 à 40
30
minutes.
30 à 40 minutes, oui,
45
je sais pas.
Minutes, ouais. Voire une heure. Ouais.
C'est-à-dire que voilà, la culture ne revient pas forcément facilement dans ce territoire-là.
Voilà, c'est ça.
Ouais. C'est compliqué à mettre en place, ça. C'est du boulot ou
Bah c'est compliqué. C'est compliqué surtout au niveau communication.
Ouais.
Parce que c'est compliqué de faire adhérer toutes les communes pour une communication globale sur l'ensemble de la saison.
Ouais.
Et après, informer les gens, on a l'impression que c'est simple, parce qu'il y a beaucoup maintenant de réseaux sociaux, de façons de communiquer.
Ouais.
Mais en fait, on n'arrive jamais à trouver la bonne communication.
Ouais, ouais.
On entend toujours quand même des personnes qui nous disent « Ah ben, on n'était pas au courant » ou « On ne savait pas ». Enfin voilà, c'est la plus grosse difficulté en fait.
D'accord. Bon, ce week-end, on va parler de ce qui se passe ce week-end, comme ça les gens ne pourront pas dire on n'était pas au courant.
Voilà.
Vous proposez tous les habitants de la Haute-Vallée d'Azergues et puis du Beaujolais et autour.
Et du monde entier.
Et du monde entier, pourquoi pas. de jouer avec le vent. Alors, qu'est-ce que vous avez programmé pour ce week-end?
Alors, en fait, on fait venir une association du Pas-de-Calais qui est spécialisée dans les cerfs-volants et tout ce qui existe autour, qui va venir nous proposer des démonstrations et des ateliers.
Ouais.
Donc, il va y avoir différentes formes et tailles de tout genre, des démonstrations de cerfs-volants pilotables, et puis d'autres surprises. Et surtout, également, je passe le mot que si vous êtes fan de cerfs-volants, si vous avez des cerfs-volants, vous pouvez venir jouer avec vos cerfs-volants personnels.
Ouais, grand rassemblement de cerfs-volants. Il y a une photo là sur votre site internet où on voit des dizaines et des dizaines de cerfs-volants. C'est à ça que ça va ressembler?
Voilà, ben on espère. C'est une première édition, donc ouais. Voilà, on espère avoir plein de monde qui viennent. Alors, ça se situe en plus dans un lieu magnifique, parce que c'est l'aire de jeu de Grand Ry,
ouais,
qui est sur les hauteurs de la commune, et il y a une vue magnifique, quoi.
D'accord.
Vraiment, c'est magnifique.
Bon, ça a l'air magique comme ça. Bon, les cerfs-volants, ça fait toujours rêver quand on est petit,
ouais,
et puis même quand on est grand, ça marche encore. Il y a un atelier, je crois, pour en fabriquer.
C'est ça, donc on va faire un atelier dans la salle de l'Étoile, qui est la salle de Grand Ry, un atelier où il va y avoir de la fabrication de cerfs-volants c'est pour les enfants à partir de 4 ans, mais aussi pour les adultes.
Okay.
Toute la journée, ça commence à partir de 10h,
ouais,
et donc il y aura toujours quelqu'un pour vous montrer comment fabriquer un cerf-volant.
Et après on peut aller l'essayer et voir si ça marche.
Voilà, à l'air de jeu, donc il va y avoir des bannières tout au long du chemin pour accéder à l'ère de jeu de
Grand
Ry.
Donc on va voir plein d'objets volants, faut pas s'inquiéter si au-dessus de Grand Henri.
Voilà,
il y a plein de
choses c'est ça. Qui volent. Et c'est, je voulais juste préciser aussi que c'est en face de l'hôpital de Grand Henri, qui est un hôpital gériatrique.
Ouais.
Et on se dit aussi que peut-être donc les personnes âgées qui peuvent pas sortir, etc., elles vont pouvoir aussi regarder de leur fenêtre ce qui se passe.
Par la fenêtre, voilà. Un peu de magie, ça fera pas de mal effectivement. Il y a des spectacles aussi dans la journée. Il y en a un premier à 11h30, chanson sur pilotis. Je crois que lui aussi, les cerfs-volants viennent du Pas-de-Calais. Calais, lui aussi, vient du nord de la France.
Alors, lui, il vient de Bretagne.
Ouais.
C'est pas loin. Et donc, c'est un guitariste-chanteur qui va interpréter ses propres compositions.
Ouais.
À 11h30, juste avant l'apéro.
Très bien, parfait.
Donc. Et donc, je pense que suite à ça, vous pourrez aller aussi vous restaurer. Il y a un restaurant, un café-restaurant à Grand Ré qui va proposer des plateaux, charcuterie, etc.
D'accord.
Et puis, on a peut-être l'idée de faire venir un food truck, mais ça, c'est une surprise qu'on vous donnera sur Facebook.
Très bien. Donc, chanson sur pilotis, l'artiste qui s'appelle Vincent Bruzel.
C'est ça.
Et je vous invite à aller découvrir ce qu'il fait sur Internet. Je suis allé écouter ce matin, c'est pas mal du tout. Et dans l'après-midi, il y a un deuxième spectacle. Alors là, c'est plutôt de l'acrobatie
Alors, c'est de la danse acrobatique.
D'accord.
Ils sont vraiment perchés. Enfin, c'est vraiment super ce qu'ils font. C'est deux danseurs qui viennent, eux, du sud-ouest. Donc, ils vont jouer leur spectacle à partir de 16h.
Ouais.
Et ils sont également, parce qu'on travaille, on essaye de travailler de plus en plus avec différentes associations. Donc, ils vont être au foin dans les planches au Chaplard,
ouais.
À la chapelle de Mardor, le matin à 11h.
D'accord.
Donc, ils vont faire un spectacle à 11h là-bas, dans le cadre de leur programmation. Et puis, après, ils viennent chez nous à 16h.
Très bien. Donc là, spectacle pour petits et grands aussi.
Tout public, public, c'est tout public. On veut vraiment que ce dimanche soit un dimanche tout public, famille, pas famille, jeune, ancien, ouais. Retraité, pas retraité. Enfin, normalement, ça doit toucher tous les âges.
Ouais, très bien. Donc, on va jouer avec et dans le vent. Il faut qu'il y ait du vent, alors, dimanche.
Eh oui, alors aujourd'hui ça serait idéal.
Là on a le bon temps là.
Ouais, on a le temps idéal avec du soleil et puis du vent.
Ouais.
De toute manière, si jamais le temps n'est pas bon, on peut se rapatrier dans la salle de l'étoile où donc l'association des cerfs-volants nous a dit qu'ils pouvaient faire quelques démonstrations quand même dans cette salle qui est haut de plafond.
D'accord.
Alors ce ne sera pas pareil, hein, bien sûr, ouais. Mais voilà, il y a cette possibilité-là. Enfin, on prie pour qu'il fasse beau.
Ouais.
Par contre, il faut venir avec vos parkas, il faut venir bien habillé parce qu'il fait frais quand même maintenant.
Très bien. Bon, moi j'ai hâte de découvrir ça. Donc, jouer dans le vent. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cet événement. C'est un événement, on peut le dire aussi, gratuit. Je crois que les artistes, c'est au chapeau.
Voilà, c'est entièrement gratuit, sauf les ateliers où on prend une petite participation.
Très bien. Merci beaucoup encore une fois, Nadine Pasquier. À très
merci
bientôt.
Mathieu, à bientôt. Ouais.
Un bon week-end et du vent.
Merci.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, je vous propose d'écouter Marcel et son orchestre avec le titre « Cerf-volant ».
Un poisson rouge écarlate, craché le tigre rugissant, à deux pas d'un vieil allemand, sirotant un jus de tomate, il faisait voler un requin couvert de tatouages. Subitement pour embrasser une coccinelle.
Elle croquait une pomme d'amour devant le balai aérien. Des dragons de Singapour ou Pékin, je sais plus très bien.
Moi, pendant ce temps, je voulais dénouer les ficelles de mon cerf-volant. Moi, pendant ce temps, je voulais dénouer les ficelles de mon
allez gonfler ses bras.
réponses sur le podium de la ligue. On peut gagner les crayons, mais l'animateur nous fatigue.
Wannon donc à la main, Paul tire sa main dans de l'eau. Il a repéré le petit train piloté par un astronaute.
Moi, pendant ce temps, je voulais dénouer les ficelles de mon cerf-volant. Moi, pendant ce temps, je voulais dénouer les ficelles de mon cerf-volant.
Une abeille aux yeux convergents n'arrivait pas à décoller, alors qu'un éléphant faisait des loopings impressionnants.
N'en pouvant plus te supporter, les gens pressés dans son échoppe, Lola jeta son tablier pour aller se griller une
grosse opération réussie, concédait un homme de foi. Quand brusquement le vent souleva la jupe de sa femme assoupie,
pitoyable sursaut d'orgueil, il s'accrocha avec Luigi, qui ravi avait applaudi
la petite qui l'était loquitie.
Son orchestre, un groupe du Nord-Pas-de-Calais, toujours aussi sympa.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et oui, il est avec nous, le coach. Bonjour.
Salut, gamin.
Bon, comment allez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, écoute, je dois dire que ça va bien. Je suis bien reposé, parce que ce week-end, c'était relâche.
Ah, ça fait du bien un week-end relâche de temps en temps.
Oh non, d'achat, ça fait du bien. Mais genre, tu vois, dimanche, c'était journée glandouille, en jogging, avec un plaid et un grog.
Bon,
alors, très bon j'étais pas particulièrement malade, hein, mais moi, j'aime bien ça, le grog. C'est la cannelle, le miel, le citron, et puis il faut mettre bien du rhum quand même.
Oui, avec modération, etc.
Bien sûr, mais bien du rhum quand même.
D'accord.
Et si tu veux, ben, je me suis quand même rendu compte que ça fait du bien de rien faire. Alors je sais que pour certaines et pour certains, c'est difficile de rien glander pendant une journée entière. Mais bon, c'est la saison qui veut ça, hein. L'automne, c'est une invitation à se calmer et puis un peu à récupérer après une rentrée mouvementée, hein, qu'on ait ou pas des gamins à l'école. De toute façon, le mois de septembre, c'est toujours la reprise sur les chapeaux de roue.
Ouais.
Alors moi, je dis, ben, il faut écouter son corps et ses besoins. Et si le corps, il dit grog, eh ben alors mon gamin fait chauffer de l'eau.
Très bien.
Alors pour passer le temps, je me suis maté des documentaires animaliers sur France 5 et Arte. Certains, je les ai regardés parce que le dimanche, ils en passent plein. Et puis les autres, je les ai matés en replay.
Ouais.
Et franchement, je peux passer des heures à regarder la vie des animaux sauvages d'ici ou d'ailleurs, les plus beaux lacs, les plus belles forêts, les gazelles qui se taillent poursuivies par des lionnes. Je sais pas pourquoi ça me pose.
C'est
tu
vrai.
Vois, je vais te faire une confidence, gamin. Je fais partie de ceux qui regardaient Histoire naturelle la nuit sur la Une, ouais, quand j'arrivais pas à pioncer quand j'étais jeune.
Très bien.
Pourtant, je suis pas trop fan de la chasse, hein, tu vois. Moi, je les trouvais même cons avec leur treillis et leur chien essayer de buter un chevreuil ou un sanglier. Mais il y avait un truc qui m'attirait quand même. Bon, il faut reconnaître qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de choix la nuit. C'était soit la chasse sur la Une, soit l'équipe en boucle sur la 6. Donc,
ouais.
Mais quand même, il y avait un truc qui me fascinait dans l'histoire naturelle. Parce qu'il faut reconnaître que c'est étrange quand même le succès de ces documentaires animaliers et naturels. C'est un des styles qui a le plus de productions documentaires partout dans le monde. Alors même s'il y a un renouvellement du genre avec d'autres types de narrations, des choses un peu plus modernes, on reste dans un style très classique et similaire depuis des décennies. Ouais. Il y a même des chaînes qui sont dédiées à ce style, les documentaires animaliers naturels, à longueur de journée et de nuit. Ouais. Un voyage continu depuis ton fauteuil. Et si ce style naturaliste fonctionne, ben, c'est qu'il y a une raison, figure-toi, gamin.
Bah.
Et la raison, elle est à chercher du côté de notre cerveau. Parce que quand un truc rencontre autant de succès, alors qu'objectivement, c'est surcoté, c'est que le cerveau se fait enfler et que des circuits qui font du bien au cerveau sont à l'œuvre.
C'est un autre biais cognitif, alors?
En quelque sorte, c'est un biais cognitif. On va voir ça.
Très bien.
Alors, les neuroscientifiques Erwin Biedermann et Edvard Vessel, ont mené une expérience de psychologie. Alors, on savait déjà, grâce aux neurosciences, que le cerveau est câblé pour apprécier les scènes naturelles, ce genre de scènes-là. Ou, alors que ce soit bien sûr en images, à la télévision, ou que ce soit en vrai, dans la nature. Parce qu'en fait, ces images, ces mises en scène de grands espaces et d'animaux sauvages, ben, ça stimule des aires du cerveau qu'on appelle les aires visuelles associatives. Et nos deux gars neuroscientifiques, Erwin Biedermann et Edvard Vessel, ils ont présenté à des volontaires une série de photographies que ces derniers devaient classer par ordre de préférence. Et ces images comportaient des scènes naturelles d'un côté, par exemple la foudre tombant sur une montagne, des paysages de lacs et de forêts, des petits singes dans les arbres, des scènes d'environnement humain composées d'éléments complexes, comme par exemple des canaux sinuant entre des maisons sur pilotis, aux toits complexes. Et puis, des environnements urbains plus modernes et aux lignes plus uniformes et épurées, comme des parkings, des façades lisses, des grands ensembles d'immeubles. Mmh. Eh bien, nos scientifiques ont constaté que les images préférées des participants étaient le plus souvent des scènes naturelles représentant des lignes complexes avec divers plans et divers volumes, comme des arbres, la forêt, les falaises, les différents animaux logés en différents emplacements de la photographie. La deuxième chose qu'ils aimaient ensuite, c'était les environnements humains, mais présentant également diverses lignes de fuite et une composition complexe. Tu vois, comme les canaux sinueux que j'ai signalé un peu plus haut. Mmh. Mais par contre, les environnements urbains aux lignes très droites, très simples, ben, les parkings, les façades, ça avait peu d'intérêt et c'était classé tout à la fin.
D'accord.
Alors les gars, ils ont réussi à montrer quand même qu'on préfère les images naturelles avec des lignes complexes plutôt que des images géométriques. Voilà, que dans cette complexité-là, ça attire plus notre œil. Mais ils n'avaient pas encore expliqué pourquoi on les préfère. Alors ils ont reproduit l'expérience, mais en mettant les volontaires dans un scanner pour voir les zones qui étaient activées par ces images. Non, mais quand même, il faut reconnaître que Erwin et Edvard,
ils étaient motivés.
Ils ont mis moyen dans leur étude quand même. Hein.
C'est clair.
Tout de suite, tu mets un scanner dans l'histoire, ça fait plus sérieux qu'une simple expérience où tu dois dire et trier les images que tu préfères.
Ouais.
Et en fait, la clé de la préférence et du plaisir à regarder des scènes naturelles, eh bien, elle réside dans l'activation de ces aires visuelles associatives dont on a parlé, dont la fonction, en fait, sont d'établir des liens et des connexions entre les divers éléments d'une scène visuelle pour l'analyser. Parce que notre cerveau, il s'est développé comme ça. Parce que dans le temps jadis, au moment des hommes préhistoriques et même encore après, c'était important de pouvoir bien analyser son environnement pour voir s'il y avait des réserves de nourriture ou s'il y avait potentiellement du danger. Donc, on a développé, nous, les humains, de grandes capacités à analyser les scènes complexes, d'où l'intérêt de notre cerveau pour de telles scènes. Hein ?
D'accord.
Ça fait classe de le savoir, ça, quand
ouais,
même. Hein ?
C'est pas mal, c'est pas mal.
Mais alors là où ça devient intéressant, gamin, c'est que ces aires visuelles associatives, elles contiennent de très nombreux récepteurs opioïdes de type mu. J'ai bien dit opioïdes, comme la chouffe. Des récepteurs qui réagissent à des composés comme la morphine, l'opium, enfin tu vois, et puis aussi ce qu'on appelle entre guillemets la morphine naturelle produite par notre cerveau, qui s'appelle l'endorphine. C'est souvent D'accord. quand tu te fais un petit shoot d'endorphine, quand tu fais du sport, des trucs comme ça, ça fait du bien.
Ouais.
Alors vous avez bien compris le truc, mes petits chats. Quand vous regardez un documentaire, ben vous faites un petit shoot d'endorphine sans passer par la case prison. Ça vous détend et ça vous met bien. Merci Arte, merci France 5, les meilleurs dealers du PAF. Non, alors tout ça pour dire que le truc bonus en plus, c'est que ça marche dans la vraie vie. Parce que ça fait tout autant du bien d'aller dans la vraie nature le dimanche, dans une forêt, sur les collines, à la campagne. pas besoin de rester devant sa téloge pour profiter du truc. Alors dimanche, moi gamin, c'est décidé, je vais me faire un shoot d'endorphine dans le Vercors.
Très bien, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc on sait enfin pourquoi est-ce que les documentaires animalistes, ça continue de marcher depuis
c'est
si longtemps.
C'est comme quoi, pourquoi on est comme des cons devant la télé à regarder ça.
Merci beaucoup coach, à très bientôt.
Allez, à très bientôt les amis.
Ensemble sur Calade.
Allez, y a des choses inexplicables comme ça, et puis le coach, il arrive et il les explique. Tout de suite, on écoute Oxmo Puccino, parce que la vie...
Si ce monde est trop dur pour le prendre tel quel, on peut enterrer l'obscur en se roulant quelques pelles. Exister n'est pas drôle, mais ça en vaut la peine. On souffre pour frapper la taille humaine. Profite du bonheur car il va s'éloigner. L'argent se paye cher, demande à ton loyer. Retiens le secret des gens heureux qui savent que ça sera rarement comme on veut. Jamais, parce que la vie c'est... Parce que la vie c'est inexplicable.
C'est des fleurs et des barils de poudre. C'est la nuit où j'ai vu le jour. C'est des coups de boule ou des coups de foudre. C'est un vaudeville, c'est un chaos toujours. Je veux pas la grande, je veux la bonne vie tout court. On est seul, on meurt seul, dansons. Nos langues sans boire, rappent des copeaux d'émotions. Bout de chansons pour tromper le sablier. Comme un esthète au-dessus de la mêlée. Quand j'ai le cœur à plat, je cherche le bréviaire ou le mode d'emploi. J'ai posé mes questions aux comètes, aux étoiles, aux grimoires, aux poètes. Inexplicable, vise à la vie, aux amis, à la mifa. Rien ne vaut la vie, donc vive à la vida.
Parce que la vie c'est... Parce que la vie c'est... Parce que la vie c'est... Inexplicable. L'amour, on en parle, ainsi je cours. Le manque de temps inclut le manque de tout. Je propose un départ au quart de tour. Des casseurs d'extase, partez tout cassez-vous. Je propose du bon vieux temps. Pardonne les cons qui me demandent. On commence quand entre le tout et son contraire. Tu vas y arriver même si t'aimes pas ton père. Parce que la vie c'est... Parce que la vie c'est... Parce que la vie c'est... Inexplicable. Parce que la vie c'est... Parce que la vie c'est... Parce que la vie c'est... Inexplicable.
Et ouais, la vie c'est inexplicable. C'était Oxmo Puccino et Gaël Faye qui nous chantaient ce titre.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Et pour l'humeur littéraire du libraire, on retrouve notre libraire, c'est Bertrand Lamure. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, de quoi est faite cette fameuse humeur aujourd'hui ?
Eh ben, j'avais envie un petit peu, alors j'en ai déjà parlé sur d'autres saisons, parce que là on enchaîne, ça y est maintenant, on reprend l'habitude de rencontres, de rendez-vous, ouais, à la librairie.
Et ça fait du bien, j'imagine.
Voilà, tout à fait, à la fois d'accueillir des auteurs, mais aussi d'accueillir, la semaine dernière, nous avions un petit temps théâtral qui était extra, la Diesel Company, qui avait un spectacle qui s'appelle Vieille Moi Jamais, qui était, voilà, c'était... très drôle, un peu grinçant, mais très drôle. Et puis, on a évidemment des auteurs qui ont commencé à revenir, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir repartir dans une vie normale, on va dire. J'espère que ça va durer. Et donc, voilà, je voulais un petit peu évoquer, en fait, deux rencontres, l'une qui est passée et l'une qui est à venir. Alors, l'une qui est passée, parce que ça me permet quand même d'évoquer... Paola Pigani. Alors, Paola Pigani, en fait, est une poète, une auteure que nous avions déjà accueillie en 2020 en tant que poète. Mmh. Elle avait sorti un livre qui nous avait beaucoup marqué en 2019, qui était chez Liana Levy, « Des orties et des hommes ». Et là, elle revient avec un livre qui s'appelle « Et il dansait le dimanche », toujours chez l'éditrice Liana Levy. Alors, Paola Pigani est quelqu'un de très doux, donc c'est toujours un vrai plaisir de l'accueillir. Elle est lyonnaise, mais elle est d'origine italienne, enfance en Charente, là où se passait son livre d'ailleurs « Des orties et des hommes ». Et là, avec « Il dansait le dimanche », ça a été une très belle rencontre, parce qu'elle nous évoque une période, les années 20-30, à Vaux-en-Velin. Alors le Vaux-en-Velin, où on est entre, on va dire, betterave et usine, hein, c'est deux mondes qui se côtoient, c'est encore un village, village agricole, et c'est déjà les premières usines qui apparaissent. Et là, elle évoque les usines Gillet. Alors les usines Gillet, c'était des usines de textile, et c'était déjà la soie artificielle. Et à travers le destin d'une femme, d'une Hongroise, qui a été recrutée via les filières de travailleurs étrangers en Hongrie, et elle vient avec sa cousine, et elles vont découvrir cet univers-là. Alors, c'est à la fois un univers du monde ouvrier, donc ce monde ouvrier géré par des patrons paternalistes, hein, c'est-à-dire, bon voilà, ils leur disent, alors tu vois, tu arrives, il y a un foyer de religieuses, on te donne toute une série de services, hein, donc évidemment, quand on vient du monde paysan assez pauvre ou de pays très pauvres, que ce soit la Hongrie, que ce soit l'Italie ou ailleurs, il y a comme ça au premier abord quelque chose de presque positif.
Ouais.
Au deuxième abord, c'est un peu plus compliqué, voire très compliqué, parce que ben c'est un encadrement qui est très fort. Hein. Il s'agit pas trop de se rebeller quand même. Il s'agit pas d'oublier l'heure de la messe. Et puis ben, les conditions de travail, les usines de la soie, et ben voilà, c'est une ambiance très humide. On travaille évidemment 10 heures par jour, 6 jours sur 7, et il ne s'agit pas d'être en retard, autrement on n'est pas payé, etc., etc. Donc il y a un encadrement très fort que donc Paola Pigani restitue très bien. Et puis le titre, hein, « Il dansait le dimanche », c'est-à-dire c'est ce fameux dimanche qui commence quand même par la messe, c'est-à-dire que c'est le jour où vous faites ce que vous voulez, mais il faut quand même venir à la messe à 8h du matin. Et après, ben voilà, c'est ce jour où en fait on se retrouve, on prend quand même enfin le temps. Mais tout ceci est dans un univers assez clos. Cette fille Sonia qui vient de Hongrie, donc elle habite dans un lieu de religieux à Vaux-en-Velin, et il va lui falloir plusieurs années pour qu'elle sorte de cet univers, pour qu'elle se rende compte qu'à Lyon il y a deux fleuves. Si on situe un peu Vaux-en-Velin, Lyon, ouais, c'est quand même assez proche. Hein. Ouais. Et voilà, donc c'est une très très belle, c'est très poétique, c'est très beau. Et puis aussi un temps sur les conflits, hein, parce qu'on n'est pas très loin de 34 et bien sûr de 36, avec le Front Populaire, les grandes grèves du printemps 36, et c'est très très bien restitué. Donc j'ai trouvé que c'était très agréable, très instructif de recevoir comme ça des auteurs qui, au-delà d'une lecture qui est belle, c'est aussi une rencontre qui est belle. Parce que ça nous permet des échanges. Les personnes qui étaient là vendredi, c'était vendredi, et ben ça leur a permis, voilà, de discuter, d'évoquer aussi leurs propres souvenirs familiaux. Parce que bah, beaucoup ont grandi à Vaux-en-Velin, ou ont grandi à Lyon, ou ont grandi avec des parents qui viennent du monde ouvrier. Voilà, donc c'était un très beau, très bel échange. Et ça fait donc très, très plaisir, très chaud au cœur de pouvoir comme ça passer du temps avec des auteurs qui nous donnent voilà, un peu de leur temps. Et puisque j'étais dans les rencontres, je voulais associer la prochaine rencontre qui a lieu vendredi. Alors, vendredi, on change complètement d'univers avec un auteur, Julien Dufresne-Lamy. Alors, Julien est un auteur que nous avons aussi accueilli. Je reconnais que j'aime bien suivre les auteurs et j'aime bien les réinviter. Je trouve que c'est toujours très riche de pouvoir les suivre sur un temps donné. Alors, Julien Dufresne-Lamy, c'est un univers complètement différent. Là, il termine un triptyque où il avait commencé avec Monstre, qui était l'histoire des drag queens, principalement dans les années 80 à New York. Il avait suivi avec Mes tremblements de terre, qui était l'histoire d'un père qui va changer de sexe, et on va l'accompagner dans cette transformation. Et là, le dernier, c'est 907 fois Camille, aux éditions Plomb. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Camille, qui est une grande amie de Julien. Et cette fille a grandi dans un univers un peu particulier parce que son père, alors le nom de son père est connu, mais pas forcément de la bonne manière, puisque son père, c'est Dodo Lassemure. Alors, Mathieu et les autres, si vous vous rappelez de Dodo Lassemure, on le connaît parce que c'était un grand pote de Dominique Strauss-Kahn, et que c'était un proxénète, et qui apparemment tenait des lieux un peu glauques où allait ce fameux Dominique Strauss-Kahn. Donc, comment vivre avec un père qui a été proxénète? En fait, c'est ça. Et un proxénète un petit peu célèbre, quoi. Voilà. C'est très, très bien fait, c'est très bien écrit, beaucoup, beaucoup de sensibilité. Et puis, on se pose beaucoup de questions sur cette jeune fille. Du coup, Julien revient, lui aussi, sa relation, être ami avec une fille dont le père est proxénète, qu'est-ce que ça implique? Voilà. Donc, très content d'accueillir Julien, qui lui aussi a tout un pôle ado. C'est un auteur qui est aussi beaucoup sur les ados et il est très très doué pour ça parce que se mettre dans la peau d'un ado quand on est un adulte, pas toujours évident. Et là, il fait quatre livres qui correspondent chacun à une saison sur, voilà, quelque part, quatre saisons d'ados, de lycéens. Et c'est également très très bien fait. Donc voilà, est-ce que j'ai le temps d'en citer d'autres ou pas?
Eh ben pourquoi pas un dernier livre. Donc Julien Dufresne-Lamy, il sera là ce vendredi
15 octobre à 19h pour une nouvelle rencontre. Et je cite simplement dans les rencontres qui vont venir, on aura la joie entre autres d'accueillir les éditions Héraclite, édition locale, et qui viendront le samedi 23. Et il y aura entre autres Michel Verrier, qui est un grand auteur du monde rural, que j'aime toujours beaucoup, donc là c'est son prochain. Et puis puisqu'on y est, en novembre, évidemment Marie-Hélène Lafont, ma chouchoute absolue, qui viendra pour nous parler de Flaubert. Il y aura Wilfried Nsondé, aussi très très beau texte, Corinne Royer, très très beau texte, et puis on va faire un petit moment un peu foufou, puisque la librairie va se déporter au Théâtre de Villefranche le 18 novembre pour faire une soirée Beaujolais les nouveaux entre lecture, chansons et boissons.
Très bien, c'est un charmant programme tout ça.
Tout à fait, la vie reprend et c'est chouette.
Enfin, bon, il nous reste quelques minutes, est-ce qu'on les passe en musique ou est-ce que vous avez un dernier livre, événement à nous présenter?
Non, c'est tout bon pour moi dans ces deux rencontres. Je rajoute si juste quand même le vendredi 22 à 19h, la Villa Hispanica, donc ce très beau lieu à Coni, autour de la culture hispanique, mais pas que. Voilà, ils viendront pour présenter leur nouvelle publication, qui est un album photo sur le Beaujolais, de très très belles photos. Donc ça sera encore l'occasion d'évoquer un autre univers, et puisqu'il y avait encore une minute, demain, nous serons au théâtre, pardon, de Villefranche, pour un mercredi après-midi cookie, c'est-à-dire lecture autour d'un texte monde univers de la forêt, etc., inspiré de Valentine Gobi, lu par Emmanuel de la Schiava, et nous serons là pour proposer les livres.
D'accord.
Donc, avec ça, si on peut pas dire que la vie on n'en reprend pas, moi je ne sais plus.
Ah oui, il y a trop de choses à faire presque. Merci beaucoup Bertrand, en tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Vous aurez le temps la semaine prochaine de passer faire votre rubrique.
Mais bien évidemment, surtout pour parler des choses. Et parce que du coup, j'ai encore 30 secondes, je n'ai pas parlé des Story with Mary. Pendant les vacances scolaires, tous les jours à 16h, il y aura une heure avec un petit goûter autour de lecture en anglais, Story D'accord. with Mary, tous les jours à 16h, pendant les vacances.
Parfait, allez. La date est donnée. Merci beaucoup Bertrand, à très bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah c'est la fin de cette émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous la retrouverez en podcast sur radio-calade.fr, notre site internet. Et en rediffusion, c'est demain matin à partir de 10h. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour une nouvelle émission. Tiens, Bertrand Lamure nous parlait du livre « Il dansait le dimanche » de Paola Lévy. Ça m'a fait penser à un titre de Massilia Sound System qui sera très bien pour se quitter. Ça s'appelle « Le dimanche au Good ». Très bonne journée sur Calade, à tout bientôt, à demain, ciao.
On va passer un dimanche au Good, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au Good, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs, tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs, les papis, les mamies, les policiers, les voleurs, veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs, ces valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur, le rythme des Marseillais au gré des saisons, des couleurs. À l'automne, on va passer quelques belles soirées dehors. L'hiver, il faut patienter, là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps le permet, on se promène sur le port. Mais quand arrive l'été, l'appel des goudes est le plus fort, on va passer un dimanche au Good, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au Good, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
Du printemps au printemps, trop de mauvais délire résonne dans la ville et mon esprit chavire. C'est le chable partout, vraiment pas de quoi rire. Ça file tous les jours, tu peux t'attendre au pire. Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains sont prêts à tout pour finir les premiers. Dans le ciel, les vautours se comptent par milliers. Laissons là tous les fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur.
On va passer un dimanche au Good, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au Good, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
Dans la main, dessus la grave, si elle se boule, d'un qu'elle ne vous sait. Dans la main,